Alain Weinstein.
Bonsoir. Du jour au lendemain, avec Patrick Deville, qui publie Peste et choléra.
Un roman aux éditions du Seuil.
Sept milliards d'hommes peuplent aujourd'hui la planète. Quand c'était moins de deux, au début du XXe siècle, on peut estimer qu'au total, 80 milliards d'humains vécurent et moururent depuis l'apparition d'Homo sapiens. C'est peu. Le calcul est simple. Si chacun d'entre nous écrivait ne serait-ce que 10 vies au cours de la sienne, aucune ne serait oubliée. Aucune ne serait effacée. Chacune atteindrait à la postérité et ce serait justice. Sans remonter à Cordon Bleu, Patrick Deville, si je m'en tiens au tout dernier livre, aux deux précédents, après Equatoria et Kampuchea, dont vous étiez venu parler ici, au micro du jour au lendemain, voici Peste et choléra, donc toujours des titres qui se terminent en A.
Je les cherche.
Et qui ont peut-être un lien les uns avec les autres.
Oui, absolument, oui, oui. Et pas seulement la dernière voyelle. Oui, ce sont des livres qui ont de commun d'abord d'être des romans d'aventure sans fiction. Tout dépend ce qu'on appelle la fiction, enfin l'invention en tout cas. L'invention c'est la forme et la langue, mais les faits relatés, les vies dont il était question dans le préambule, contrat que pour ma part, je pense avoir déjà rempli d'ailleurs.
Donc vous êtes bien dans le contrat de la collection qui accueille vos livres, fiction et compagnie.
Et compagnie, alors je suis peut-être dans la compagnie, oui.
Il y a une petite différence peut-être entre le livre qui paraît cette année et Kampuchea par exemple, c'est que cette fois-ci, le texte est tout de même fédéré par un personnage qui a réellement existé et dont vous racontez la vie sans en faire à proprement parler la biographie.
Oui, oui, c'est en effet, ça s'est imposé ainsi, donc celui-là c'est en effet une vie.
Et ce personnage, il apparaissait déjà dans Kampuchea.
Il apparaît à la fin de Kampuchea, et donc des récits de vie, j'en ai fait dans les livres précédents régulièrement, mais généralement c'est intégré, enfin, j'aurais pu, il clignote deux fois Hyacinthe à la fin de Kampuchea, uniquement comme explorateur, parce que ses cartes ont été agrégées à celles d'Auguste Pavy, le découvreur du Laos.
Et c'est vrai qu'il a eu plusieurs vies.
Voilà, absolument.
Ce personnage, Alexandre Hyacinthe.
Voilà. Et non, au départ, c'était plutôt un projet sur la petite bande des Pasteuriens. Ce qui aurait fait en effet.
C'est-à-dire la première équipe de
la l'Institut première équipe, Pasteur. La première équipe de jeunes hommes qui entourent le vieux Pasteur, oui. Et qui vivent en communauté, rue Vauquelin, des orphelins, des déracinés, des célibataires, puisqu'ils vivent en communauté. Quelque chose d'un peu monastique avec au milieu ce vieux Pasteur, qui, comme le nom l'indique d'ailleurs, est à la fois le guide des âmes et des troupeaux.
Mais vous ne vous en êtes pas tenu à cet aspect de la vie de Hyacinthe. Vous en avez suivi toutes les traces autour du monde. Après avoir fait toutes sortes de rencontres et vous êtes nourri de correspondances et de documents qu'on trouve aujourd'hui dans les archives de l'Institut Pasteur.
Voilà, ça je le savais depuis longtemps. Ces pasteuriens Calmette, par exemple, je les voyais passer dans mes recherches pour les précédents livres. C'est lié ça un peu aussi à l'école de la navale de Brest où étaient Savorgnan de Brazza, Pierre Loti et donc Calmette. Albert Calmette, qui retrouve ensuite Brazza à Libreville, mais ça je ne l'avais pas mentionné. Donc je connaissais l'existence de cette petite bande, puisque partout sur la planète, à la fin de la deuxième moitié du 19e, on les croise. Et je savais que leur correspondance était déposée.
Celle de Yersin est immense.
À l'Institut Pasteur. Celle de Yersin est immense. D'une part, il y a les correspondances amicales et professionnelles entre les pasteuriens eux-mêmes. Mais aussi, là, par un hasard heureux, très longtemps après sa mort, il est mort sans enfant, sa sœur également est morte sans enfant, mais un pasteurien a retrouvé chez des descendants collatéraux les correspondances privées avec sa mère et sa sœur, c'est à l'Institut Pasteur, et là, voilà, c'est une mine sur laquelle je suis tombé avec un très très grand bonheur.
À un moment du livre, Patrick Deville, vous dites qu'écrire une vie, c'est jouer du violon sur une partition. Et c'est donc ça, l'aspect romanesque du livre, c'est la musique.
Oui. L'invention, c'est cela, finalement. Alors, c'est comme toute invention, il faut bien des contraintes. Alors, ou bien les contraintes elles-mêmes, on les invente, ou bien on ne les invente pas. Et donc là, lorsqu'on prend la vie d'un personnage célèbre, alors il faut y mettre beaucoup de guillemets, enfin il le fut un peu, et tout de même c'est l'homme qui a découvert le bacille de la peste, c'est le premier médecin à avoir sauvé un pestiféré par la vaccination, il a eu en cela réellement une heure de gloire. On ne peut pas dire qu'il soit aujourd'hui très célèbre, mais enfin, cela signifie tout de même que cette vie est sue, qu'on ne peut pas en changer les péripéties, en quelque sorte, et que donc l'invention, elle se fait dans les limites de ce qui est écrit sur la partition.
Et quand on entreprend de raconter la vie d'un personnage comme celui-là, il faut commencer par le commencement, il faut qu'on y comprenne quelque chose, c'est-à-dire forcément parler du père.
Oui, enfin, ou de l'absence du père,
c'est aussi un...
Oui, bien sûr,
aussi intéressant.
Mais ce qu'il y a de commun, hein, je le mentionnais tout à l'heure, c'est assez curieux, dans cette petite bande des premiers pasteuriens, il y a des... Voilà, Roux, Émile Roux, numéro 2, quoi. Enfin, vraiment le plus proche de Pasteur était également lui orphelin. Et puis ensuite, pendant très longtemps, mais à Eclipse, Yersin est assez proche de Paul Doumer, qui lui aussi est orphelin. Il y a une espèce de fraternité de garçons orphelins là-dedans. Oui.
L'enfance, ça se passe en Suisse, dans le canton de Vaud, à Morges, et c'est pas très loin de où habite Jean-Luc Godard, qui n'était pas né à l'époque.
En effet. Mais enfin, lui, Jean-Luc Godard, est suisse également, comme Yersin, évidemment, d'autres habitants autour du lac. Quiconque a réussi finit autour du lac.
Et le père, donc, qu'il pratiquement n'a pas connu, était féru de botanique et d'entomologie.
Et il meurt avant sa naissance. Mais en même temps, les chiens ne font pas des chats, parce que donc il a une sœur aînée, Yersin, et les deux finalement ont passé leur vie à reproduire un peu les lubies du père. Enfin, il est entomologiste, mais en même temps, il est ingénieur aux poudreries pour gagner sa vie. Il est un temps professeur de collège, puis il meurt très très jeune, à 38 ans, il ne le connaîtra pas. Mais il y a un côté comme ça, inventeur, qui se retrouve chez le frère et la sœur.
Il est élevé par sa mère ?
Oui, alors là aussi, enfin, pas faire de la mais psychologie, mais...
On peut en faire un petit peu quand même.
Oui, en effet, il y a deux choses de ce point de vue-là qui marquent profondément son enfance. C'est d'une part de grandir absolument au milieu des femmes, puisqu'il a une sœur aînée, il a sa mère, et que sa mère tient ce qu'on appelle aujourd'hui une finishing school pour les jeunes filles de bonne famille, et leur
une
apprend,
pension.
Voilà, à ne pas confondre les couverts, à pouvoir un peu papoter à table de sujets divers. Donc en effet, il y a cela qui, il faut bien le reconnaître, lui donne à la fois une certaine misogynie latente et une sexualité indécise, disons. Et puis il y a cet enseignement dans cette église évangélique libre de Morges, qui est un schisme du protestantisme vaudois lui-même, pas extrêmement rigolo, mais là ce sont des puritains purs et durs, et donc ça le marque bien sûr profondément.
Donc il est seul et il a des idées de sauvageon, je crois que c'est le mot que vous employez.
Ben oui, il est le seul garçon là-dedans, il reprend les lubies du père, il se met lui-même à torturer les insectes, enfin sous prétexte de les étudier.
Ouais, il s'est acheté un microscope.
Voilà, le bistouri, le microscope du père, qui sont les emblèmes quoi, du père.
Et c'est avec ce microscope qu'il va identifier...
Ah non, c'est un peu plus tard, tout de même. Il achète là le dernier modèle, c'est quand il est en Allemagne, chez Carl Zeiss. Il achète le modèle le plus perfectionné de microscope, qu'il rapportera à Paris, puis dans l'actuel Vietnam, puis à Hong Kong, où il va observer le bacille. Oui.
Souvent, la peste, à cette époque-là, est confondue avec la lèpre.
Oui, un peu avec tout. Il y a des phrases magnifiques de Pasteur sur la recherche. Quoi. Ces jeunes gens, ça, le génie absolu, l'intuition absolue, c'est Pasteur, qui lui-même n'est pas médecin, qui vient à la médecine de manière curieuse. Il est cristallographe, il est chimiste, il travaille sur les maladies du papillon du ver à soie, hein. Il travaille sur la bière, il pasteurise le vin, et il en arrive comme ça, le charbon du mouton, et il en arrive à cette vaccination antirabique. Donc il invente la méthode, il invente non seulement la méthode, mais la réalité, quoi. Là, je cite un échange de courrier avec Littré, qui est en train de travailler au grand dictionnaire, et finalement c'est Littré qui tranche et qui dit, eh bien voilà, c'est bestiole, enfin qu'il appelle lui animalcule, eh bien oui, je vous conseille d'appeler ça microbe et leur étude la microbie. C'est Littré qui prend cette décision. Et ces jeunes gens savent que Pasteur, ayant mis au point cette méthode, c'est-à-dire on observe, on décrit le virus, le bacille, ensuite on chauffe, on l'atténue, et on peut obtenir un vaccin à la fois curatif, préventif, etc., ils savent qu'ils sont là au bon moment. Alors c'est la course, quoi. C'est la course entre eux à l'intérieur de cette petite bande, et puis c'est la course avec les Allemands et les Japonais, l'Institut Cor.
Il reste une question, Patrick Deville, comment ce personnage, qui est donc né en Suisse, qui a vécu son enfance là-bas, qui ensuite a fait ses études en Allemagne, est-il arrivé à Paris et a pu rencontrer non seulement Pasteur, mais les autres de cette petite bande dont vous parlez, en particulier Émile Roux?
Beaucoup de hasard là-dedans. Enfin, sa décision, c'est lui qui la prend. Il est complètement, parfaitement bilingue. C'est ça qui est intéressant, parce que moi, dans le livre, enfin, l'intérêt de la vie d'Hyersin, qui est longue, il meurt en 1943, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il est né sous le Second Empire. Il est suisse, donc il est un peu en retrait des querelles franco-allemandes. Il est parfaitement bilingue. Il commence à étudier la médecine en Allemagne. Et il choisit de venir à Paris uniquement pour des raisons pédagogiques, pas du tout politiques, parce que c'est à Paris qu'on enseigne au chevet du malade. C'est la méthode patronale, c'est la Hennec. Donc c'est pour des raisons pédagogiques, enfin d'enseignement, qu'il vient à Paris, pas du tout politique.
Mmh. Et je pensais que c'était là que ça se passait, que...
C'est une fois qu'il arrive, là, en effet, il sait, parce que justement, il arrive quelques mois après que Pasteur ait sauvé le petit Joseph Meister de la rage. C'est un succès considérable. Et il arrive à Paris dans une effervescence à la fois scientifique, mais enfin je voulais rassembler aussi, vous noter que c'est le moment où ces trois petites bandes des Sahariens, les explorateurs, la Société de Géographie, des Parnassiens, avec Rimbaud, Verlaine, Banville, etc., et la petite bande des jeunes types de l'Institut Pasteur, du premier Institut Pasteur, ils sont au même endroit, dans les mêmes rues, et que justement, lui, l'intérêt de sa vie, c'est qu'il les croise, ces petites bandes, puisqu'à la fois, il publie à l'Institut Pasteur de la science, dès le début, de la microbiologie, mais ensuite, il se fait marin, il devient explorateur.
Ouais, parce qu'il
ne
va pas rester très longtemps à Paris, il y reviendra.
Oui, il y reviendra régulièrement, mais il s'en va très vite, au grand désespoir de Pasteur, quoi, parce qu'en... On n'a rien de temps, c'est un génie de la recherche, on n'a rien de temps, il est extrêmement brillant, sa carrière est assurée.
Saïgon, d'abord.
Il demande à Pasteur de lui faire un courrier de recommandation, et il devient marin, enfin il devient médecin de bord.
Médecin à bord des bateaux.
Sur les paquebots des messageries maritimes. C'est lui qui choisit l'Asie, il est affecté à la ligne Saïgon-Manille, et puis assez vite il en a marre également de cela, il laisse tomber. Et il se fait explorateur. Ensuite, il est explorateur professionnel. Et là, il publie des textes à la Société de Géographie, quasiment au même moment que le dernier texte édité de Rimbaud, c'est à la Société de Géographie, c'est l'exploration de l'Ogaden.
D'ailleurs, vous faites souvent dans le livre un parallèle entre Yersin et Rimbaud.
Oui, c'est une piste, quoi. Enfin, si on lit la correspondance du second Rimbaud, alors évidemment, il y a des hasards. Il y a aussi le fait d'écrire sans cesse à la mère et à la sœur. Ça également, c'est commun. Mais il y a aussi que ce rêve du second Rimbaud, en fait, c'était d'être Yersin. C'est-à-dire qu'elle, utile, comme l'écrit Rimbaud, multiplicateur de progrès, le suprême savant, leur bibliothèque sont proches. Ce sont des bibliothèques dans lesquelles il n'y a que des revues scientifiques, d'agronomie. Enfin, on voit tout cela dans les lettres d'Aden. Touche à tout, curiosité. Sauf que Yersin, lui, vit 80 ans et qu'il y parvient à être le suprême savant.
Et qu'il a aussi un petit problème avec l'ennui.
Oui, en même temps. Alors, ça justement, c'est quelque chose de... Je ne suis pas sûr qu'il ait un problème avec l'ennui. Sa curiosité est à ce point insatiable que sans cesse, il se met à quelque chose. Quand il se met à quelque chose, il ne s'y met pas à moitié. C'est-à-dire que dans tous les domaines, quand il se met à l'astronomie, il publie dans la revue d'astronomie fondée par Poincaré, précurseur de la relativité. C'est-à-dire, ça n'est pas un dilettante. Quand il se met à quelque chose, il le fait absolument et il atteint le plus haut niveau très vite. Mais là, il cesse. Mais c'est plutôt la curiosité, parce que d'un autre côté, l'ennui, il le recherche tout le temps. C'est-à-dire que même... Quand il s'installe à Nha Trang, qui est un village de pêcheurs, il est le seul à n'être pas pêcheur annamite.
C'est vraiment le lieu qui va l'émerveiller.
Absolument, mais au bout d'un moment, au bout de quelques années, quand il a créé un dispensaire, un institut pasteur, quand il commence à faire des recherches, il fait venir des pasteuriens, il fait venir vétérinaires, il forme des fils de pêcheurs qui deviennent laborantins, etc. Et là, ça devient trop. Et alors, il trouve dans la montagne... dans la cordillère anamitique, un lieu, la colline du Honba, qui est quasiment toute l'année dans le brouillard et sous la pluie et où la température descend à 6 degrés, et là il se fait construire un chalet suisse, et pendant 50 ans, il passera régulièrement des semaines de solitude absolue près de la rivière à couper son bois, à ne voir personne, donc à chercher cet ennui enfin, qui est propice qui est propice à la réflexion, à la création et au bonheur.
Il y a une phrase assez rimbaldienne de lui que vous citez, « Ce n'est pas une vie que de ne pas bouger ».
Voilà. Et là, il a 26 ans, justement. Il a 26 ans, et c'est le moment où il plaque tout, il plaque l'Institut Pasteur, Et ensuite, en effet, il va bouger pas mal, hein, sur une bonne moitié de la planète. Enfin, l'Inde, Madagascar, la Chine, l'Indochine. Ensuite, Java et l'Indonésie, parce qu'il va devenir ensuite le roi du caoutchouc. Donc, il ira chercher des graines d'EVA. Il est le premier à planter en Asie du Sud-Est continental, dans l'actuel Vietnam, des EVA et à produire du caoutchouc.
Est-ce qu'on peut dire de lui qu'il fut un génie? Je crois que vous posez à un moment la question.
Oui, oui, oui. Si on s'entend sur une définition assez simple et commune, il a effectivement un génie de l'observation scientifique.
C'est comme ça qu'il a été amené à observer ce fameux bacille de la peste.
Absolument. Et vraiment, et à chaque fois qu'il s'y met, c'est en deux coups de cuillère à peau, quoi. On l'envoie... On a vraiment l'impression, parce qu'à ce moment-là, il est explorateur. Ça lui plaît bien d'être explorateur. Et il devient photographe, il est ethnologue, il passe des mois dans les jungles, il rencontre ces peuples qu'il regroupe sous ce terme tombé en désuétude de Moï, qui signifie montagnard. Aujourd'hui, on distingue les différentes minorités ethniques. Donc il fait de l'ethnologie, il expédie des documents, des objets au Musée de l'Homme à Paris, etc.
Il dessine,
oui, mais alors ça, ce sont les barbichus du 19e, c'est magnifique. C'est comme la correspondance, enfin, ces gens qui sont, même pour beaucoup, d'origine étrangère, utilisent, et comme ça, ce sont les correspondances privées qui ne sont même pas relues à la plume, sur le papier, tout ce que j'ai lu... à l'Institut Pasteur, ça n'a été ni microfilmé ni saisi. C'est émouvant aussi. En fait, tous ces milliers de lettres que j'ai lues, ce sont les originaux, ce sont les vrais. Et donc, il n'y a quasiment pas de correction. C'est écrit sur un coin de paillasse ou de bureau à la plume très vite, et c'est une syntaxe, enfin, pour lequel j'ai du goût également.
Donc, si l'ordinateur avait existé, s'il avait envoyé des mails, on n'aurait plus rien.
Alors ça, ce n'est pas ce que prétendent les services spéciaux. On retrouve tout. Hein. On pourra continuer à faire de la génétique textuelle avec les mails. Mais donc quand les pasteuriens lui demandent de bondir à Hong Kong parce qu'il y a une épidémie de peste, finalement, voilà, il y va, mais un peu pour leur faire plaisir, en restant le moins longtemps possible et en deux coups de cuillère à peau, voilà, il est le premier homme au monde à observer et à décrire le bacille de la peste. Il en emplit des fioles en verre qu'il scelle et il expédie ça à Paris à l'Institut Pasteur avec un mot pour calmer Thérou en disant « voilà, je ne suis pas en peine que vous parveniez vite à trouver le vaccin, etc. » Et puis il arrête, il se met à faire autre chose, et c'est parce qu'on tourne en rond et qu'on ne parvient pas à élaborer le vaccin que finalement c'est même pas l'Institut, là, c'est carrément la Troisième République qui lui demande instamment de venir à Paris s'occuper de son foutu bacille, parce que c'est... parce que c'est un peu dangereux d'abriter des bacilles de la peste dans le 15e arrondissement.
Alors quand on travaille sur une vie comme celle-là, ce que vous avez fait, Patrick Deville, est-ce qu'on est amené à penser que le hasard a beaucoup tiré les ficelles?
C'est ce qu'il y a de plus romanesque dans les vies, bien sûr, les parts de raison et de passion, les parts de décision et de hasard, d'autant plus que là, c'est cette question du hasard qui interroge la découverte scientifique elle-même. Et il y a une phrase de Pasteur qui est que le hasard ne favorise que les esprits préparés. C'est une excellente définition, parce que finalement, c'est très proche de la création poétique, littéraire, musicale, picturale. On a toujours l'impression qu'il y a du hasard, mais en fait, ou la chance, mais en fait, sans la chance, le talent n'est rien. Enfin, mais en même temps, cette chance n'en est pas une, parce que justement, l'esprit est préparé, est suffisamment attentif, parce qu'en fait c'est ça, il suffit d'être attentif pour que le hasard survienne.
On parlait de Rimbaud, est-ce que la vie de Yersin est un bon exemple d'une vraie vie?
C'est un peu dans le C'est un peu le point de vue de ce parallèle que, en effet, cette vraie vie libre et gratuite, il est, là encore, ça peut sembler paradoxal, puisque il est détaché de l'économie, mais en même temps, il gère extrêmement bien les affaires et de l'Institut et les siennes, et que, ça, là encore, ça n'est pas un hasard si, au bout du compte, il fait fortune, et il ne le fait pas personnellement. Puisque même à un moment, comme au contraire tout cela coûte énormément d'argent et que ça n'entre pas dans l'objet moral de l'Institut Pasteur, l'élevage, l'agriculture et tout cela, ils créent une petite société privée avec roue et calmette, et ils mettent leurs économies là-dedans. Et ils se lancent dans l'agriculture, l'élevage et la production de cocaïne. Puisque, enfin, pour la pharmacie, il est quasiment, il aurait pu être l'inventeur du Coca-Cola. Il invente cette boisson absolument incroyable en mélangeant du coca et de la cannelle, et il envoie ça à Paris en conseillant à tous ses collègues pasteuriens d'en prendre un petit verre de temps en temps, ce qui va les requinquer. Et par contre, dès que tout cela commence à rapporter de l'argent, ils revendent cette petite société à l'Institut Pasteur pour un franc symbolique. Et ensuite, c'est ça qui va faire vivre les instituts pasteurs d'Asie, en grande partie, quoi. C'est la production du caoutchouc, c'est la production de la quinine. Il devient le premier gros producteur de quinine de l'actuel Vietnam. Alors oui, en effet, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vraie vie. Oui.
Vous écrivez d'ailleurs que, comme nous tous, il cherche le bonheur, sauf que lui, il le trouve.
Et en tout cas, je ne pense pas, et ça c'est tout de même ce qu'il y a de plus important, quand à la fin, il a épuisé toutes ses lubies dans tous les domaines scientifiques, de l'astronomie, la géographie, l'ethnologie, la bactériologie, etc., il est assis dans son rocking chair devant la mer sur sa véranda, de juin 1940 à sa mort en 1943, donc là pendant 3 ans, quasiment octogénaire, il cherche encore ce qu'il pourrait bien faire, et donc il se met d'une part à étudier les marées, c'est-à-dire toutes les 6 heures avec des jumelles, il observe les échelles de marnage qu'il a fait planter dans l'estuaire de la rivière, en mer, etc., il note ça dans un carnet, et à côté de ça, il se met à traduire les Grecs et les Latins. Et alors là encore, avec une... Là encore, quand il retrousse ses manches et qu'il s'y met, il ne fait rien à moitié. Donc, il tape Virgile à la machine, en latin, à Interligne 2. Tout cela est dans un petit musée à Nha Trang, qui a été constitué quand on a démoli sa maison. On a récupéré un peu tout ce qui traînait, tout son fourbi à l'intérieur.
Parce que vous vous êtes rendu là-bas,
évidemment. Oui, bien sûr, oui, dans tous ces lieux. Oui, oui, après avoir lu à l'Institut Pasteur. Et également ce chalet du Honda qui existe toujours, dans lequel vivent des gardiens là, en altitude, en endroit quasiment inaccessible. Et donc il tape Virgile en latin à la machine, à Interligne 2, et il le traduit au crayon dans l'interstice. Quoi. Il finit sa vie comme ça.
Avec une dernière passion pour les orchidées.
Oui, sa passion pour les orchidées, elle est très liée à sa passion pour la photographie. Il est également, alors ça c'est bien avant, c'est pendant la Première Guerre mondiale, il est l'un des premiers à effectuer des tirages en couleur, et donc il est pour cela en correspondance. C'est ça aussi qui est très intéressant, mais c'est l'époque, quoi. Il est en correspondance toujours avec ses alter-ego, c'est-à-dire qu'il choisit les meilleurs. Pour les éverts et le caoutchouc, il est en correspondance avec Michelin. Lui-même, pour la photographie, il est en correspondance avec Louis Lumière. Pour la botanique et les graines et ses jardins, il est en correspondance avec Villemorin. Pour l'automobile, puisqu'il est l'introducteur de l'automobile en Asie, il est en correspondance avec Serpollet, qui lui a été oublié, mais qui est le premier producteur mondial industriel d'automobile, qui devient son ami. Voilà, ses correspondances sont en effet...
Donc un homme de réseau.
Oui, je ne sais pas si c'est un homme de réseau, parce que d'un autre côté, oui, on peut imaginer qu'il y avait également des relations entre Serpollet et Michelin, par exemple. Ça. Mais par contre, Villemorin et Lumière, non, alors là, c'est en effet sa passion pour les plantes et la photographie qui fait qu'il entretient une correspondance avec Louis Lumière. Oui.
C'est un solitaire qui a un certain goût pour les bandes, quoi.
Oui, mais cela aussi, ce n'est pas... c'est comme pour cette histoire d'ennui, ça peut sembler paradoxal, mais... ces pastoriens sont des solitaires irréductibles, mais qui sont fraternels, mais qui parfois s'engueulent. Enfin, il n'est pas misanthrope. Enfin, il l'est un peu, il le devient. Mais enfin, ça, c'est la phrase de Champfort. Quiconque n'est pas misanthrope à 40 ans n'a jamais aimé les hommes. Mmh. Il n'est pas misanthrope, il est déçu un peu, évidemment.
Ouais. Vous parliez au début de l'émission de sa sexualité indécise dans l'adolescence. Est-ce qu'elle a fini par se décider, sa sexualité ?
Non, pas tellement. Alors, beaucoup de légendes courent sur Hyacinthe. D'abord parce qu'en plus, il a absolument refusé de recevoir les journalistes, d'en parler, etc. On lui a prêté des descendances. On continue au Vietnam à lui prêter des descendances vraisemblablement farfelues. On l'a supposé de tout. Des bruits courts. Et en même temps, moi aussi j'étais un peu curieux de cela, mais comme lui n'en fait pas une enclume, il n'y a pas de raison. D'autant plus que ce goût, est assez récent d'exposer absolument comme s'il n'y avait que cela dans la vie des hommes. Lui n'en fait pas une... Bon, d'abord, évidemment, la correspondance avec sa mère et sa sœur, le sujet n'est pas abordé. Sauf une fois, parce qu'il essaie de se marier, enfin, il entreprend, voilà, de manière assez normale, et puis finalement... ça tombe à l'eau. Enfin, il est absolument étranger à toute vie bourgeoise, Hyacinthe. Il s'en va faire le marin, l'aventurier. Et puis dans ses écrits scientifiques, évidemment, ça n'est pas non plus abordé. Alors, au détour d'une lettre, comme cela, et donc je le mentionne, mais moi non plus, je n'en fais pas une enclume. Enfin, au détour d'une lettre, un collègue pasteurien, Paul-Louis Simon, qui est alors à Saïgon, il lui dit, voilà, un de ces jours, nous nous retrouverons au célibatorium.
Peste et choléra, le livre de Patrick Deville, est publié aux éditions du Seuil. Du jour au lendemain, Bruno Mourland, Anne Franchini, François Poirier, Alain Weinstein, bonsoir.